Bonjour. En effet, je suis David Rosset, je suis le pasteur de cette communauté avec deux autres collègues, Myriam et Nathalie. Et ce matin, nous allons aborder notre cinquième et bientôt dernier volet de la thématique qui nous occupe depuis quelques semaines sur la transformation. Et puis, j'ai intitulé ce message « Juste et en progrès ». Donc, il y a vraiment les deux. Et puis, je commence par ce qu'au groupe de jeunes, ils appellent des punchlines, donc c'est-à-dire des phrases un peu percutantes. Et puis, je vous donne celle-là, par rapport aux chrétiens. Plutôt que de vouloir être zen ou bien dans sa peau, le croyant est appelé à rechercher la sainteté. Ce n'est pas facultatif. Plutôt que de vouloir être zen ou bien dans sa peau, le croyant est appelé à rechercher la sainteté. Et ce n'est pas facultatif. Alors ça, c'est un auteur du 21e siècle qui l'a composé cette phrase, puis elle nous parle, mais on la retrouve à plusieurs reprises dans la parole, notamment sous la plume d'un apôtre qui s'appelle Paul, qui a écrit plusieurs lettres aux églises naissantes des premières églises du christianisme, et puis notamment dans celle qu'il écrit à l'église de Thessalonique, voilà ce qu'on peut lire. « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans quoi ? Dans la sainteté. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, c'est-à-dire vous rende saint, pas seulement un peu, mais totalement. Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui encore qui agira. » Ça nous met un peu la pression. Hein. C'est le genre de texte, généralement on les lit puis on les met un peu de côté parce qu'on se dit de toute manière, c'est pas pour moi. C'est beaucoup trop compliqué à essayer de mettre en œuvre, c'est beaucoup trop compliqué d'essayer de vivre ce que Paul nous demande. Et puis du coup, on les oublie un peu, puis je trouve que l'Église du 21e siècle, dont je fais partie, a un peu tendance à oublier cette mission, cette progression vers la sainteté, pour se dire, peut-être que c'est quand même plus utile d'être un peu zen, bien dans sa peau, puis après, éventuellement progresser, ça on regardera si j'ai encore de l'énergie pour. On renverse un peu les rôles à ce niveau-là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la Bible, les premiers chrétiens, quand ils s'appelaient les uns les autres, ils s'appelaient comment ? Bénissez tous les saints qui sont à Nyon, à Rôles, à Thessalonique, à Corinthe. C'est la manière, une des manières en tout cas, d'appeler les chrétiens. On les appelle les saints. C'est une responsabilité hein, d'avoir ce titre-là. Ce n'est pas quelque chose d'évident à porter. Donc, on se rend bien compte que la sainteté, c'est à l'instar de l'éducation des enfants ou le fait d'élever des enfants, c'est un problème complexe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui naviguent un peu dans nos arrière-pensées quand on parle de la sainteté, et puis particulièrement dans nos églises, parce qu'il fut un temps où on nous appelait, au 19e siècle, au début du 20e siècle, les petits saints, par exemple, d'une manière assez péjorative, de se dire, voilà, il y a ceux qui sont là, puis ils sont un peu particuliers, on les appelle les petits saints. Ou alors, le terme qui était employé pour désigner les personnes qui allaient dans des églises évangéliques, c'était le terme des momiers. Puis si j'ai bien compris, ce que ça voulait dire, c'est qu'on essayait de jouer aux saints. Donc c'est encore pire comme péjoration, parce que c'est non seulement ils veulent y arriver, mais comme ils n'y arrivent pas, ils font semblant de l'être. Et c'est comme ça que le monde considérait les chrétiens, si j'ai bien compris, vous me corrigerez, les plus anciens parmi nous. Mais c'est de se dire, la sainteté, on sait qu'on doit y arriver, mais on sait qu'on a aussi pas mal de peine à y arriver. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. Et puis j'ai l'impression qu'actuellement, comme on a un peu plus de peine à y arriver, on se dit, bon, je préfère laisser ça de côté, et puis on fait ce qu'on peut. Alors, essayons de retrouver l'équilibre, parce que je crois que ce processus de transformation, c'est aussi un processus pour s'approcher de la sainteté. C'est pas quelque chose qu'on peut abandonner comme ça, notre identité, notre mission chrétienne. C'est pas quelque chose qu'on peut juste laisser de côté et puis se dire, bon, c'est trop compliqué, j'abandonne. Je pense que ce but, cette volonté de progression en aller de l'avant, malgré tout ce qui nous habite, petit saint, momier, tout ce qu'on veut, ça reste une priorité. Et pour y arriver sur ce chemin de progression, il y a deux socles. Le socle que vous commencez à très bien connaître, je pense, c'est de se dire qu'on a été créé à l'image de Dieu. socle de confiance. Dieu place toute sa confiance en nous et il nous crée à son image. Donc il y a ce regard fondamentalement positif sur nous qui nous permet d'envisager quelque chose de plus et de beau. Et le deuxième socle que je vais un peu approfondir ce matin, c'est que l'on est juste devant Dieu. On est considéré comme juste devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on dit que l'on est juste devant Dieu ? C'est exactement le rappel que l'on fait quasiment tous les dimanches avec le repas de la scène. Et puis c'est particulièrement fort de s'en souvenir lorsqu'on prépare Pâques, hein, on est sur ce dimanche des rameaux où on accueille Dieu dans nos vies, c'est de se dire qu'à Pâques, Dieu a décidé par son Fils de prendre justement tout ce qui nous empêche d'être saints, en langage chrétien on appelle ça le péché, sur lui pour nous mettre un peu les compteurs à zéro. Certains conseillers fédéraux ils diraient qu'on fait un reset comme ça sur tout ce qui se passe. Eh bien, avec Dieu, au début de notre vie chrétienne, d'une certaine façon, on a fait un reset. On est considéré comme juste devant lui parce qu'on a accepté sa mort, son sacrifice à la croix pour nous. C'est le deuxième socle sur lequel on peut construire notre vie et notre mission chrétienne. Il y a d'abord cet acte d'amour qu'on ne comprend pas de Dieu, de nous créer à son image, quelque chose qui nous dépasse. Et ensuite, au vu de la tournure des événements, Dieu décide d'envoyer son Fils dans le monde pour nous dire « Je vous rejoins là où vous avez les plus grandes faiblesses, votre péché, parce qu'on le sait très bien quand on n'est pas en équilibre dans sa vie intérieure et dans sa vie extérieure. Et là, je vous envoie mon Fils pour vous délivrer de ce qui vous empêche d'être saint. » C'est ce qui se passe à la croix, c'est ce qu'on rappelle tous les dimanches, et c'est ce qu'on appelle en langage un peu plus compliqué, la justification. C'est-à-dire qu'on est considéré comme juste devant Dieu. Et ça, c'est un socle incroyable, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de se poser « est-ce que oui, non, ou je ne sais pas comment je suis devant Dieu ?» Dieu, il pose un regard favorable sur nous, parce que nous avons accepté ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est tout le message de Pâques et c'est tout le message que la Bible nous transmet. La justification, donc, c'est l'acte de Dieu qui décide tout seul, comme un grand, il n'a pas besoin de nous, hein, de ne pas tenir compte de nos fautes, de ne pas les sanctionner. Le juge suprême, Dieu, décide de ne pas tenir compte de nos actes répréhensibles devant lui. Il est possible que devant les hommes, nous soyons tenus responsables de nos méfaits, de nos actes condamnables, et même condamnés parfois, mais on peut toujours, malgré cela, être considéré comme juste devant Dieu. C'est peut-être pas évident à comprendre. On peut avoir désobéi à la loi et aux hommes et toujours être considéré comme juste devant Dieu. On peut même être un grand criminel condamné par les hommes et justifié devant Dieu. C'est un peu compliqué à comprendre, hein ? Mais beaucoup de personnes qui sont, par exemple, dans nos prisons, ont rencontré le Seigneur et sont considérés comme justes par Dieu. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cela ? Ça nous gêne un peu aux entournures. Hein ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et ce qui nous échappe, c'est que le fait d'être considéré juste devant Dieu, nous, on n'a aucune influence dessus d'une certaine façon, puisque c'est Dieu qui décide d'accueillir les hommes tels qu'ils sont comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est sauvé par grâce, puis que ça ne nous appartient pas, puis que nos efforts ne servent à rien. C'est Dieu seul, ce Dieu que nous adorons, qui fait ce geste envers nous et qui le vit de cette manière-là. Il y a quelque chose qui nous échappe, voire même qui nous dérange, parce qu'au fond de nous, on se considère quand même toujours un tout petit peu plus juste que l'autre. Particulièrement de celui qui a commis un méfait, puis qui a commis quelque chose de répréhensible. Pour Dieu, il y a une espèce de mise à niveau, de mise à égalité, qui est très dérangeante. Et puis, il y a une histoire dans la Bible que Jésus raconte, où c'est des ouvriers qui se présentent chez un patron, puis qu'il y en a qui arrivent à 8h du matin, à 9h du matin, à 10h du matin, il fait de plus en plus chaud, à 11h du matin, presque comme dans cette salle, à midi, il fait de plus en plus chaud, à 3h, à 4h, à 5h du soir, le dernier ouvrier est engagé. Et puis, à 6h, il amène tout le monde vers lui, ce patron, et puis il fait les comptes, puis il donne le salaire à chacun selon ce qui a été convenu au début de la journée. À celui qui a travaillé depuis 8 heures le matin, il lui donne 1 franc. Ou bien 10 francs ou 100 francs, je ne sais rien. Il donne 100 francs, allez, soyons généreux. Il donne 100 francs. À celui qui a commencé depuis 9 heures, il lui donne 100 francs aussi. À 10 heures, 100 francs, jusqu'à celui qui a commencé à 5 heures du soir, quand il faisait déjà beaucoup moins chaud, puis que c'était presque l'heure de l'apéro, il lui donne aussi 100 francs. Et c'est ça la justice de Dieu. Quand on est considéré juste devant Dieu, c'est lui qui fixe les règles du jeu, et il le fait par grâce qui nous dérange fondamentalement. Parce que ce n'est pas notre justice. C'est exactement l'image de ces ouvriers qui se révoltent puis qui disent « c'est pas normal, moi j'ai travaillé depuis 8 heures, j'ai transpiré toute la journée, je reçois la même chose que celui qui a travaillé depuis 5 heures du soir. » On aurait exactement la même réaction, j'en suis sûr. Si je faisais un petit exercice, ce serait assez intéressant. On n'aime pas cette forme de justice parce qu'elle est profondément dérangeante, parce qu'on ne peut pas vraiment calculer. Il y a une forme de générosité dont on se rappelle à la table de la scène qui nous dépasse. D'une certaine façon, cette justice, pour nous, on peut la considérer comme une injustice. Parce que nous avons été saisis par cet acte inconsidéré. Et notre réponse à nous, c'est simplement de se dire, cette justice que je ne comprends pas complètement, Seigneur, je décide de l'accepter. Je décide de me rendre compte que j'en ai besoin et je te demande pardon. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que je me présente devant Dieu à cette table en disant, oui, Seigneur, viens me remplir de ta présence. J'ai besoin de cela pour ma vie, pour mener une vie juste. Et ça, c'est la justification, c'est le pardon, et c'est un pardon acquis de haute lutte. Cette semaine, j'ai médité sur un texte que peut-être certains d'entre vous connaissent, où Jésus, avant d'arriver à son procès, avant d'être livré à la mort, il se retrouve tout seul dans un jardin, à un endroit qui s'appelle Gethsémani. C'est un moment très intense, ça m'a frappé, c'est un texte que je connaissais bien personnellement. Je l'ai relu, puis de nouveau j'ai été touché par l'intensité de ce texte. Jésus est seul. Tous ses disciples, ceux qui étaient proches de lui, l'ont un peu abandonné déjà. Il prie avec son Père, avec Dieu. Des grumeaux de sang coulent sur son visage, c'est-à-dire l'intensité de ce moment-là. Tellement son angoisse de se retrouver face à ses bourreaux, de se retrouver sur cette croix, l'angoisse devient très forte. On n'est pas dans du sensationnalisme ou bien dans une espèce de surjoué des émotions. On voit que notre Sauveur et Seigneur, il a peur. Il a peur d'affronter la mort. Il a peur de boire, dans un langage imagé, cette coupe qui est devant lui. Cette peur, cette angoisse, elles sont en vue d'une seule chose. C'est que nous puissions être considérés comme justes devant lui. Cette justice que peut-être on a un peu trop l'habitude d'entendre, c'est une justice qui a été obtenue de haute lutte, décidée et voulue par Dieu. Cette justice, parfois, on peut un peu la prendre à la légère, et je trouve que le risque de renverser les rôles, il est bien présent. On le trouve au détour d'une conversation anodine, quand on arrive à formuler des phrases du style « c'est quand même assez bien tout ce que je fais pour l'Église, pour le Seigneur, quand je regarde la société, c'est déjà pas mal que je sois croyant, sous-entendu, Dieu peut déjà être assez content de tout ce que je mets en œuvre ». Bien, quand on parle de l'Église, qui est quand même l'épouse du Christ, on se dit, alors moi c'est bien parce que dans cette Église, ça m'a apporté ça, ça, ça et ça. Ou bien alors, aussi, ça ne m'apporte pas ça, ça, ça et ça, puis on fait la liste. Puis là, je dois un peu souvent me mordre la langue pour ne pas devenir un peu percutant, puis de se dire, mais comment est-ce qu'on peut arriver à tel renversement des rôles? Comment est-ce que si on considère vraiment ce qui se passe dans ce jardin de Gethsémané, où Jésus donne complètement pour nous, de notre côté, on arrive à avoir une attitude d'un poil calculatrice, c'est-à-dire, oh, Dieu et moi, c'est un peu du donnant-donnant. J'y donne un peu de consécration, mais il me donne un peu de bien-être. Je lui donne un peu de ci, mais lui, il va me donner sa paix. Et puis, on est dans un rapport complètement étranger à la justification. complètement étranger à ce que Dieu fait réellement pour nous. Et je crois que de se reposer la question à l'endroit, c'est-à-dire de considérer ce que Dieu fait pour nous et qu'on se rappelle à cette table-là, c'est une question d'hygiène un peu du croyant. Parce que naturellement, on rentre de nouveau dans un rapport de donnant-donnant, de calcul un peu d'épicier. Nous sommes au bénéfice d'un pardon acquis de haute lutte qui nous échappe. Et c'est à partir de là, c'est pour ça que c'est vraiment ce socle, c'est à partir de là que nous sommes poussés à rechercher, à mener une vie juste. Sans ce socle de la justification, de ce que Dieu a fait pour nous à la croix, de nous remémorer, et c'est ce qu'on peut faire vraiment dans ce temps de Pâques, je vous invite à méditer ces textes dans le jardin de Gethsémané, se remémorer ce que Dieu fait pour nous dans notre direction, c'est le seul moyen de se dire qu'on va essayer de mener une vie juste, une vie sainte. Si on ne part pas de là, on va partir de manière faussée. On part de là pour se dire, en vue de ce que Dieu a fait pour moi, du pas qu'il a fait dans ma direction, ma réponse à moi, c'est de me plier à ses ordonnances et c'est d'avoir une obéissance, finalement, à toute liberté, mais dans cette direction de la sainteté. Pour moi, c'est comme un antidote à ce renversement des rôles où on retrouve cette phrase que je vous ai laissée au début, plutôt que de vouloir être zen ou bien dans sa peau, de considérer Dieu finalement comme un agent de mon développement personnel. On remet Dieu à sa place, celui qui vient pour nous sauver, qui vient nous chercher là où nous sommes, et ensuite essayer à notre tour de lui ressembler et de progresser dans sa direction. Et c'est là qu'on trouve ce terme un peu barbare au XXIe siècle, de sanctification, c'est-à-dire être rendu saint, progresser sur ce chemin de la sainteté. C'est un processus qui fait grandir chez le croyant quoi ? Une nouvelle créature qui le conduit à mener une existence de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. La justification est l'œuvre que Dieu accomplit pour nous et la sanctification, c'est-à-dire de mener une vie sainte, c'est ce que Dieu accomplit en nous. Et quand dimanche passé, Myriam nous a parlé de transformation intérieure, c'est exactement de ce processus dont il est question. Et je crois que ce matin, ce que j'ai juste envie de nous laisser, parce que je m'inclus pleinement dedans, c'est de nous encourager de manière assez fondamentale à continuer sur ce chemin en vue de la sainteté. Pas pour nous gonfler, puis tirer les bretelles, et puis de se dire, nous on est meilleur que ça, puis on va vous montrer aux autres à quel point on est saint, mais simplement, en souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, qu'on soit poussé et qu'on continue d'être poussé vers ce chemin de la sainteté. Ce n'est pas une option de notre vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facultatif, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui doit nous abattre et nous faire ploire sous le poids de la culpabilité parce qu'on se rend compte du manque entre ce que nous voulons être et puis ce que nous faisons. C'est vraiment cette idée de processus, de chemin où nous pouvons essayer de marcher dans cette direction-là, habiter avec Dieu qui vient en nous. Quand on dit qu'un autre texte du Nouveau Testament qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, un temple c'est un lieu dans tout le langage biblique qui est particulièrement saint. Notre identité, je n'ai pas parlé dans ce thème de la transformation, mais c'est quand même d'être le temple, cet endroit saint où le Saint-Esprit peut venir habiter et se développer en nous. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est même complexe. J'en suis bien conscient. Oui, il y a X biais possibles et imaginables qui ont été observés et qui continuent d'être observés. Mais je nous encourage vraiment à ne pas lâcher le morceau pour autant. Ce n'est pas parce que c'est complexe qu'on doit se dire « Ah mince, j'y vais pas, c'est trop compliqué. » Mais plutôt de se dire, on prend une position d'une certaine façon basse, humble, la conviction elle reste là et je marche avec humilité sur ce chemin-là. Et puis quand on a évoqué il y a quelques semaines ce besoin de transformation, par exemple dans notre manière d'aborder les autres et d'oser parler de Dieu, on peut faire un lien qui est assez intéressant, parce que si dans mon quartier, je suis clairement identifié comme chrétien, Moi, je suis assez clairement identifié dans mon quartier. Je suis pasteur, mais de nouveau, je ne suis pas exactement dans le même contexte que vous. Mais vous pourrez très bien être dans le même contexte que moi, hein, ça dépend de ce qu'on dit. Mais si j'ai parlé de Dieu, je me suis affirmé comme étant croyant, on prend un risque. Parce que, quasi d'office, on va être plus observé que si on s'était tranquillement planqué dans une espèce de no man's land, discretos. Je vais à l'église de temps en temps le dimanche matin, après je rentre, ni vu ni connu. C'est bon, ils étaient tous au ski de toute manière, donc ils ne m'ont pas vu, alors c'est bon. Si on s'est affirmé comme croyant, même si la connaissance de la foi elle diminue, on sera attendu au tournant sur la manière dont on se comporte, savoir si ça correspond à ce qu'on affirme, savoir si ça correspond à ce que Dieu demande de nous. Et puis là, c'est presque une contrainte à la sainteté qui nous est imposée. Alors moi, je préfère nous encourager à la sainteté puis de se partir de ce que Dieu a fait pour nous puis de se dire, oui, il y a une manière de mener une vie juste, une vie conforme à sa volonté. Et pour ce faire, on est en dépendance totale de Dieu pour mener une vie juste, pas pour mener une vie zen. Et puis c'est là qu'on a cet antidote à ce renversement des rôles qui nous guette constamment, où on cherche, où on peut chercher, courir le risque de chercher ce que Dieu soit finalement utile à notre vie et à notre bien-être. Ce n'est pas ça. Dieu, il habite en nous pour que nous puissions mener une vie de plus en plus conforme à sa volonté. Alors, que nous soyons encouragés, chers frères et sœurs, et moi le premier, sur ce chemin-là, d'oser nous affirmer en tant que croyants, puis ensuite compter sur Dieu et nous laisser transformer petit à petit sur différents aspects de notre vie pour correspondre de plus en plus à ce que Dieu attend de nous dans cette terre, sur cette terre, pardon. J'aimerais ouvrir maintenant un temps de témoignage parce que lors du premier message de cette série, je vous avais encouragé, je ne sais pas si vous vous souvenez, à pouvoir noter une chose ou une attitude qui devrait ou pourrait être transformée dans nos vies. Après, je vous avais proposé d'essayer concrètement, une fois, deux fois, trois fois, de vivre cette transformation. Puis ensuite, en dernier lieu, qu'on puisse faire le bilan, enfin, au dernier lieu, à un moment qu'on puisse faire le bilan en groupe, et puis peut-être donner un mot de témoignage par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, je tiens parole. Il y a ce moment-là qui nous est offert ce matin, et puis, voilà, j'ouvre simplement le micro, la place ici devant, pour savoir s'il y a quelques-uns parmi nous qui ont le courage de venir jusqu'ici et puis partager en quoi une chose sur laquelle ils ont été interpellés puis qui ont décidé un processus de changement ou de transformation.